première forme de vie sur Terre, il y a 3 milliards d'années, c'était elles. Elles ont inventé la photosynthèse, elles sont capables de mutations incroyables pour s'adapter à tous les milieux et à tous les climats. Les plantes sont un patrimoine mondial à protéger, j'imagine que ce n'est pas vous qui allez dire le contraire, Jacques Rocher.
Bah, c'est une évidence même, c'est la base même de la vie et donc de la relation de nous, bien évidemment, êtres humains, mais également des insectes, des mammifères, etc. Donc c'est pareil, si on dit quand on coupe des arbres, ben, effectivement on coupe pas simplement un arbre, on coupe plein de vies autour.
Alors Jacques Rocher, je rappelle, vous êtes le président de la fondation Yves Rocher, directeur du développement durable et de la prospective du groupe français Yves Rocher qui vend essentiellement des cosmétiques. On cite 500 millions de produits à travers le monde chaque année. Et la base de ces produits qui se veulent naturels, ce sont justement les plantes. Et finalement, une certaine vision de la nature merveilleuse, non ? Finalement, on projette derrière une...
Il y a de ça. Et puis, l'homme utilise la nature. Moi, j'aime bien aussi de montrer que... D'abord, on s'alimente, hein, à travers, en particulier les plantes, mais tout est une histoire de cycle. Nous, ben, une marque comme la nôtre, une marque comme Yves Rocher, utilise cette nature, ces plantes, on les cultive, hein, comme je disais tout à l'heure.
Donnez-nous des exemples.
On utilise par exemple l'arnica, qui est une plante commune. Bien, il s'est trouvé qu'on avait constaté qu'il y avait une espèce d'arnica qui avait des caractéristiques cosmétologiques intéressantes, qui était l'arnica montana, mais que cette arnica n'était que ne poussait que au niveau sauvage. Donc il n'était pas question de d'utiliser cette espèce-là. Bon, on a travaillé avec des chercheurs et on a développé, enfin c'est pas qu'on a développé, on a fait en sorte de cultiver une espèce d'arnica dans nos champs à l'Agassie, qui fait qu'elle a les mêmes propriétés cosmétologiques, mais en même temps, nous ne sommes pas un prédateur pour la nature. Je crois que c'est ça, enfin, pour moi, le point clé, c'est, encore une fois, utiliser au mieux les richesses que nous apporte la nature. Et pour nous, une marque de cosmétique végétale, eh bien, c'est effectivement utiliser des plantes sans être un prédateur,
sans
mais justement être un protecteur. C'est valoriser. Moi, pour moi, aujourd'hui, on parle beaucoup de la biodiversité végétale. On doit être dans un schéma de valorisation des espèces végétales. Moi, j'étais il y a encore très, très peu de temps à Madagascar. On travaille avec des populations locales. On a détecté une plante, un arbrisseau qui s'appelle le saro. Aujourd'hui, dans ce village qui est au fin fond de Madagascar, accessible après 4 heures de bateau, il n'y a pas de route, eh bien, on a mis en place un percolateur, hein, pour transformer ces plantes sèches en huile essentielle. On apporte à la fois des revenus à la population locale et en même temps, on valorise véritablement, localement, ce végétal-là pour apporter aussi des ressources à la population. Donc voilà, utilisons au mieux ce que nous donne la nature.
Alors j'imagine donc que la conservation de ce patrimoine vous intéresse. Alors nous vous proposons maintenant de partir à la découverte du Conservatoire botanique de Brest qui se situe dans l'ouest de la France. Ce lieu unique abrite plus de 4000 plantes. C'est l'une des trois plus grandes collections au monde. Et c'est un reportage d'Églantine Chabasseur.
Alors où sommes-nous ?
Nous sommes au vallon du Stangalar. C'est un vallon qui fait à peu près 35 hectares, vallée préservée, aménagée, un jardin conservatoire. L'objectif du conservatoire, c'est d'essayer de présenter une collection des espèces menacées de la planète.
Alors là, devant nous, on voit plein de beaux arbres en fleurs, roses, blancs.
Ça, c'est une partie de la collection du conservatoire. Ce sont des magnolias, des arbres très primitifs, parmi les premières fleurs qui aient existé sur la planète. En fait, l'histoire de cet endroit est liée à un homme qui a, dans les années 75, eu l'idée prémonitoire et assez géniale d'essayer de créer un lieu pour la conservation, réservé à la conservation des espèces végétales. C'était très connu pour les animaux, par exemple, dans les zoos, on essaie de conserver les espèces. Mais pour les plantes, il a essayé de faire la même chose.
Dans les années 75, il y avait déjà un problème de conservation des espèces ?
Oui, en fait, les espèces animales ou végétales disparaissent depuis déjà plusieurs centaines d'années du fait des actions anthropiques, des actions humaines. Et donc ce site a été entièrement réservé à l'établissement, dans un premier temps, d'une collection d'espèces au bord de l'extinction.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une collection de plantes ?
Une collection de plantes, c'est un ensemble de plantes. Donc, sur le conservatoire, on a en vue plus de 4000 espèces de plantes. Ce qui est vraiment intéressant pour la conservation au conservatoire, c'est 1700 espèces. Donc, 1700 espèces vraiment menacées. C'est une des plus grosses collections au monde, une des trois plus grosses. Parmi ces 1700 espèces, vous en avez à peu près 500 qui sont au bord de l'extinction et, pour ainsi dire, présentes qu'ici.
Ça, c'est des bananiers.
Bananiers qui viennent de passer l'hiver, sans problème. Donc, dans un mois, ils sont. On a des petites bananes, oui. Un petit régime de bananes, bananes microscopiques, des bananes de Bretagne. Donc, dans notre jardin, là, on est quand même sous un climat tempéré, hyper océanique. Brest, c'est un climat très doux. Il gèle rarement, rarement fort. Il faut dire qu'on a un milieu à la limite du subtropical à Brest. C'est assez curieux. Mais c'est vrai. C'est pourtant vrai. Donc, on arrive à acclimater des espèces, comme des fougères arborescentes, par exemple. On peut aller les voir. Qui sont des fougères géantes avec des troncs importants et qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, et qui ne tiendraient pas à Paris, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que le jardin, en fait, est une succession d'évocations de zones bioclimatiques.
Donc là, nous arrivons en Nouvelle-Zélande, c'est ça ?
On arrive en Nouvelle-Zélande, mais on peut arriver aussi au Carbonifère, donc il y a pas mal de centaines de millions d'années, puisque à cette époque-là, les plantes à fleurs n'existaient pas et que c'était les fougères, qui sont plutôt des plantes primitives, qui régnaient sur Terre. Ici, vous avez les contreforts de l'Himalaya, qui sont suggérés par un certain nombre de Mangliesia, de Magnoliaceae, Michelia, Rhododendron, etc., himalayens. Donc on va passer dans la bambouseraie, on va aller tout en bas du jardin dans la zone méditerranéenne canarienne, on reviendra par la Chine et on ira au CERN.
Beau programme.
Donc là, on a essayé de reconstituer un peu une ambiance plus asiatique de bambouseraie.
Il y a combien d'espèces de bambous ?
Ici, on doit en avoir une cinquantaine au total. On a un certain nombre de bambous rares, mais ceux-là sont trop précieux pour être exposés dans le jardin. Philostachys edulis, edulis ça veut dire comestible en latin. Sous nos climats, c'est assez étonnant. D'habitude, on voit plutôt ça en pays tropical.
Et donc c'est ceux-là que les pandas mangent ?
Voilà. Et les Chinois.
Toutes les plantes qu'on voit ici, enfin en tout cas les plus menacées, vous ont été prêtées, elles vous ont été envoyées, prêtées par les pays en question.
Voilà, où on est allé les chercher aussi avec eux, parce que c'est une bonne façon aussi d'impliquer des autorités locales ou d'intéresser le public sur des missions de collecte, qui sont en fait des moments où des botanistes du conservatoire se rendent sur place avec des botanistes locaux, où on collecte sélectivement un certain nombre d'espèces intéressantes. On les partage, on les laisse sur place, on les cultive ici, mais toujours avec l'ambition de participer d'une part à la diffusion de ce patrimoine et d'autre part de pouvoir un jour espérer faire en sorte qu'ils reviennent sur place.
Pour vous, c'est un vrai patrimoine mondial ?
D'abord, c'est un patrimoine humain qui est aussi vieux que l'humanité, puisque l'homme s'est toujours servi des plantes, aussi bien pour les manger que pour construire des bâtiments ou pour s'habiller. Enfin bref, les plantes sont partout, même aujourd'hui. Il n'y a aucun souci là-dessus. 60% des substances actives des médicaments des pays occidentaux, par exemple, sont directement inspirées de ce qu'on peut trouver dans les plantes. Donc c'est encore tout un futur. C'est la base de la vie, les plantes. Attention, parce que ça glisse un peu dans la descente. Donc là, on va développer une zone de plantes utiles, parce que c'est important aussi de présenter des plantes, certes ornementales, des plantes rares, etc. Et puis toute cette autre dimension qui fait que les plantes sont essentielles. Donc là, vous avez des trachycarpus, des palmiers de Chine. Cette plante-là n'est pas rare, mais c'est une plante qui était beaucoup utilisée pour faire des cordes, des tissages. On va mettre ici des phormiums de Nouvelle-Zélande, qui sont, eux, par contre, d'une variété particulière, qui est pratiquement éteinte dans la nature parce qu'elle a été surexploitée par les Maoris. Les phormiums, c'est ça. Les phormiums qui seront mis ici font à peu près 4 mètres de hauteur et sont très très épais et utilisés pour faire des vêtements. Oh, c'est royal, hein. C'est vraiment parce que je suis accompagné aujourd'hui, hein, Loïc. Hein.
Exactement.
Et Glantine ?
Bonjour, enchanté.
Allez-y. Allez-y, faites un petit tour dans l'essai.
Alors, nous voilà devant la serre. Il y a plein de choses aussi en dehors de la serre.
Je vais vous montrer d'abord un fossile vivant, comme on dit. Elle vient d'être découverte il y a à peu près 10 ans en Australie. Pas très loin de la grosse agglomération de Sydney. Elle vivait recluse, cachée, en relique. c'est ce petit arbre-là qui va donner un grand arbre de 40 mètres de hauteur dans quelques années. Une plante qu'on ne connaissait que par des fossiles, autrefois. C'est une plante qui est sauvée quand même de l'extinction par la multiplication qu'en ont fait les Australiens. C'est un management qui a été très bien mené. Par contre, sur le site, puisque pour nous l'important c'est de conserver les plantes dans leur milieu naturel, c'est pas de réunir une collection, ça c'est une chose importante à comprendre à ce stade de la découverte du conservatoire. Une espèce vivante, animale ou végétale, ne trouve sa raison d'être que si elle est présente dans la nature à participer à l'équilibre écologique de son milieu. Là on est dans la première serre, donc montagne tropicale humide. Il faut s'imaginer une ambiance de brouillard, une certaine fraîcheur, pas mal d'humidité, avec des sujets qui peuvent provenir aussi bien des montagnes tropicales de l'île Maurice que celles de la Chine ou du Chili. Donc c'est pas toujours évident non plus de réunir des plantes de régions géographiques aussi variées, de les maintenir. C'est d'autant moins simple que nous avons ici des spécimens qui sont parmi les derniers au monde de leur espèce, comme par exemple le Cylindrocline lorenzii, qu'on va aller voir, qui vient de l'île Maurice. Quand le conservateur du conservatoire à Brest a vu cette espèce pour la première fois, il portait un autre nom, elle n'était pas nommée en réalité, on la confondait avec une autre espèce. Il est allé collecter des boutures, il a ramassé des graines, on a réussi à en faire la multiplication et la diffusion à d'autres jardins botaniques ensuite en Europe. L'espèce sur place a été coupée pour faire du bois de chauffe. Donc l'espèce a totalement disparu sur l'île Maurice, et puis en Europe, malheureusement, tous les jardins l'ont perdu aussi, nous y compris. Donc il ne restait plus rien d'espèce, sauf quelques graines au congélateur. Et les graines au congélateur ne germaient pas. On a une banque de semences que vous allez voir, et on n'arrivait pas à faire germer ces graines, on s'est demandé pourquoi. Et en fait, c'est parce que les zones viables de la graine n'étaient pas assez nombreuses, la graine était trop faiblement viable pour pouvoir germer dans des conditions naturelles. Donc, par le biais des techniques in vitro, on a multiplié cette plante, et on a réussi à régénérer, donc à partir de ces massifs cellulaires, des petites plantules en tubes, qu'on a sorti des tubes et puis qu'aujourd'hui vous voyez ici. Donc ça, ce sont des vieux sujets, mais aujourd'hui on continue à les multiplier en tubes. L'objectif, c'est de sortir suffisamment d'éléments pour réintroduire les plantes dans leur milieu naturel.
Qu'est-ce qui empêchera les villageois d'aller recouper pour se chauffer cette plante ?
La zone est protégée désormais. C'est une question de gestion de l'environnement. On peut préserver la forêt primaire, par exemple, les massifs de forêt primaire, à condition, à côté, d'avoir des massifs forestiers dévolus à l'exploitation forestière. Catherine Gauthier, donc, responsable du service ex situ du conservatoire et de la collection de plantes menacées du conservatoire.
Et donc vous, vous occupez surtout du laboratoire.
Bon, je vous laisse. Hein.
Merci.
De rien.
Donc on a une partie des plantes qui sont en culture en serre et une autre partie de la conservation se passe au laboratoire en banque de semences. Donc on collecte des graines au sein de nos serres et notre jardin, mais également des graines qui arrivent de l'étranger et elles vont être stockées pour du stockage à long terme en fait en congélateur.
Quelles sont les principales activités du labo en fait ?
Bon, c'est beaucoup axé sur la banque de semences, la collecte, le tri des graines, les tests de germination et de viabilité. C'est déterminer les paramètres de germination de ces espèces. On travaille souvent sur des espèces rares, on a peu d'informations sur les conditions de germination.
Et alors là, devant nous, on a un microscope. Qu'est-ce que vous faites au microscope ?
Oui, microscope et surtout loupe pour voir en fait l'état des graines avant de les stocker au congélateur, voir si elles sont bien pleines, si elles ont un état satisfaisant ou pas.
Et alors, on peut aller voir le congélateur ou...
Oui, bien sûr. La banque de semences en fait est représentée par 6 congélateurs où on stocke tout.
D'accord, donc là en fait on a un trésor devant nous finalement.
Oui, on a à peu près 1500 espèces menacées dans cette banque de semences. On va avoir une bonne trentaine d'espèces qui sont éteintes en nature et présentes en banque de semences ici.
Et alors qui fait appel à votre banque de graines ?
Des collectionneurs, ça peut être des jardins. Notre objectif c'est pas d'avoir... uniquement ici en banque de semences une espèce rare, c'est qu'elle soit en sécurité, donc le mieux c'est qu'elle soit dans plusieurs endroits, donc c'est de proposer aussi ce qu'on a à différents jardins étrangers, de les informer qu'on a des graines de chez eux et de savoir s'ils veulent qu'on entame un programme avec eux ou si on fait un travail en commun, etc.
Donc ça, c'est un peu officiel du conservatoire, c'est par là que le public rentre, avec d'abord le portail et puis le pavillon d'accueil, donc, qui est le lieu d'exposition. Là, on va bientôt accueillir une exposition sur Madagascar, donc sur la flore, les richesses, les menaces qui pèsent sur... sur la flore de Madagascar, et puis notamment les actions qui sont menées par le conservatoire Mada. Et ensuite, vous avez donc la découverte du jardin et la découverte des serres, donc qui peut être faite avec l'équipe d'animation. Serres où se trouve concentrée la plus intéressante partie de la collection du conservatoire.
Je vous voyais pendant ce reportage hocher de la tête, acquiescer.
Quel beau voyage! Moi, je me retrouvais sur l'île de Robinson Crusoe avec Philippe Danton, parce que c'est une île qui est au large du Chili.
On va la visiter demain dans l'émission Figurez-vous.
Ça sera le reportage de demain.
C'est vrai. Eh bien, je me retrouvais avec Philippe Danton. On a soutenu, notre fondation a soutenu Philippe Danton pendant 5 ans pour justement l'étude de la flore. Et à un moment donné, j'étais avec lui. Il me dit, regarde, là, c'est une espèce, la végétale, qui est en train de disparaître. On n'a pas réussi à la sauver. Donc, le rôle des conservatoires, c'est extraordinaire. Nous, on a un jardin botanique, on a 1000 espèces de plantes. On est tout le temps en échange avec justement tous les jardins botaniques à travers le monde. Et il y a une vraie confrérie qui existe à travers le monde, des gens qui, bien évidemment, qui aiment le végétal, mais surtout qui veulent le protéger, le préserver. On a fait cette opération il y a quelques années avec le conservatoire de Brest. On a sauvé une espèce qui s'appelle le palmier de Vanuatu, qui est en Océanie. C'est vrai que c'était à la fois un travail local et puis, à un moment donné, un travail avec les scientifiques. Et c'est vrai que c'est fabuleux de voir qu'on peut redonner la vie.
Alors, s'il y a des conservatoires, ça veut dire que les choses vont pas bien. Hein, c'est que il y a peut-être un danger.
Je suis pas si sûr que ça. Moi, je pense que aller au muséum d'histoire naturelle et aller voir l'herbier du muséum d'histoire naturelle. Depuis des siècles, on a le plus bel herbier du monde. On a plus de 11 millions...
Mais ils sont en train de refaire l'inventaire, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Mais c'est fabuleux quand vous allez dans des lieux comme ça. Et je pense qu'il y a un travail à la fois historique qui est extraordinaire. Je pense qu'on a besoin d'avoir des lieux justement où des gens qui sont éloignés par rapport à la nature puissent voir ce qui se passe aussi dans une nature qui est très éloignée d'eux. Mais je pense que moi, c'est fabuleux. Enfin, j'étais récemment en Australie, j'étais au jardin botanique de Perth avec les botanistes. À chaque fois, Je fais un voyage au long cours, quoi.
Alors, vous dirigez la Fondation Yves Rocher, que vous avez créée en 1991. Dans quel but vous avez créé cette fondation ?
Bah, dans le but d'agir pour le monde végétal, pour la protection du monde végétal, puisque, encore une fois, Yves Rocher retire des richesses qui viennent du monde végétal. Il nous semblait simple, efficace, de dire, eh bien, on va agir simplement, mais c'est déjà beaucoup, pour le monde végétal.
Alors justement, pour agir, bah vous êtes associé avec la campagne mondiale du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui vise à planter, avant le sommet de Copenhague, en décembre prochain, 6 milliards 700 millions d'arbres, soit un arbre pour chaque habitant de la planète. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette campagne ?
Nous, on est à 5 millions d'arbres.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Vous visez les 20 millions d'ici 2011, c'est ça ?
Oui, il peut mieux faire. Ouais. Moi, ce qui est important, encore une fois, bon, le temps, c'est une chose. Je ne sais pas si c'est pour Copenhague. Pour moi, encore une fois, je pense que quand on plante des arbres, on ne travaille pas 6 mois. Hein. Un chiffre. Le plus vieux être vivant sur notre planète à 5000 ans, c'est un arbre qui s'appelle le Bristol Cones. Donc, si vous voulez, quand on plante des arbres, on se dit
qui
pas...
Qui se trouve où ?
Qui se trouve dans les White Mountains aux États-Unis, à 200-300 km de San Francisco. Donc, quand on plante des arbres, on pense pas à une échéance court-termiste. Je pense que quand on plante des arbres, on s'inscrit vraiment dans, justement, dans une démarche qui s'inscrit dans le temps, à 80, à 100 ans, à 200 ans. Bon, on sera pas là pour les voir. Et tous les arbres que l'on voit d'ailleurs en France, bien souvent, ce sont nos arrières, nos ancêtres qui les ont plantés. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que ça soit utile.
Alors justement, comment est-ce que vous choisissez l'endroit où vous plantez ces arbres et le type d'arbre ? L'espèce.
C'est avant tout des rencontres avec des gens qui sont sur le terrain, des écologistes qui font déjà un travail là-dessus. Que ce soit avec Sébastien Salgado, qui est photographe et qui est au Brésil, qui a créé l'Institut de Terra, que ce soit avec Haïdar El Ali, avec son association Océanium au Sénégal, que ce soit avec Olivier Béra, avec son association L'Homme et l'Environnement en Madagascar. Ce sont des gens, déjà, qui travaillent sur le terrain et qui n'ont pas dit, tiens, on va faire un truc, on va planter des arbres. Ils plantent des arbres. Moi, j'étais en Inde il y a 2 ans. Je travaille avec Sadhguru, qui a une fondation qui s'appelle Isha Foundation. Lui, il a pour objectif de planter 100 millions d'arbres. Eh bien, je sais qu'il va les faire.
En quoi le planter beaucoup d'arbres peut répondre ? Parce qu'on se dit aujourd'hui, par exemple, une des priorités, c'est la disparition des forêts primaires. Alors, on pourrait se bagarrer pour essayer de protéger les derniers îlots de forêts primaires.
Mais il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Bah, après, nous, on peut pas tout faire. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Il faut protéger des espaces naturels qui sont essentiels à nos écosystèmes. Et ça, c'est le problème. Comme je vous dis, 3 fois la surface de Paris qui est détruite chaque jour. Donc, et c'est là où...
Et en quoi planter des arbres est utile pour que les auditeurs comprennent bien ?
Bah, c'est utile parce que quand vous allez sur le terrain, pourquoi Madame Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, a eu justement ce prix Nobel ? Parce que c'est pas simplement pour planter des arbres. Elle en a planté 35 millions, mais parce qu'ils avaient une utilité, une véritable utilité pour retenir les sols, pour rapporter de la biodiversité, pour apporter du bois de chauffe, pour se nourrir, bon, etc. L'arbre est un élément essentiel à la vie. Moi, j'étais en Éthiopie il y a encore quelques jours. Je peux vous dire que on voit la précarité de la vie là-bas, et c'est vrai que planter 100 000 arbres en Éthiopie, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois.
On dit qu'un arbre produit suffisamment d'oxygène pour 4 personnes en moyenne. Ça dépend des espèces.
Il y a de ça, mais je pense que ce pourquoi moi je plante des arbres, c'est pour son utilité liée à la vie et à la biodiversité. Donc quand je plante des arbres en Casamance avec l'association Océanium, on rétablit la mangrove, et bien on sait que 2-3 ans après, et bien les poissons reviennent. Donc c'est utile pour les gens parce qu'ils s'alimentent avec. Donc ça, pour moi, c'est essentiel.
Et accessoirement, ça protège les côtes, ça fixe le carbone, enfin, on connaît toutes les vertus des plantes.
Alors, c'est évidemment important de planter les arbres. Maintenant, comme vous êtes aussi chef d'entreprise, on a envie de vous demander, là, on vient vous gratter un petit peu sur la fin de l'émission, mais est-ce que vous avez déjà fait le bilan carbone de votre entreprise, par exemple ? Parce que tous ces cosmétiques, c'est plein de petits pots, c'est plein de petits tubes. Bon, est-ce que c'est bon pour la planète ? Comment faire pour concilier tout ça ?
Eh bien oui, on a fait le bilan carbone de notre... La particularité de la marque Yves Rocher, c'est que nous sommes récoltants, nous avons des champs de fleurs bio, nous sommes fabricants, nous fabriquons des produits et nous les distribuons à travers nos magasins, notre vente par correspondance. Eh bien, sur le territoire français, on a fait le bilan carbone de toute cette filière-là, ce qui est assez exemplaire. Ça nous permet de voir véritablement quel est notre impact, pas simplement sur le produit, mais surtout les transports, sur nos différents mouvements, je dirais. Et on a comme objectif, à échéance 2012, de réduire cet impact de 10%. Alors on dit, quand on dit 10%, ça paraît pas beaucoup. Eh bien déjà, il faut qu'on arrive à le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait combien on émet, alors qu'il y a encore 6 mois, on ne le savait pas. Donc moi, pour moi, c'est encore une fois être dans une démarche de progrès.
Merci Jacques Rocher d'être passé dans C'est pas du vent.
Alors si vous voulez être bien informé sur les conséquences de l'utilisation du téléphone portable, on vous signale, pour ceux qui ont la chance d'avoir Arte ce soir, un documentaire qui s'appelle Sous le feu des ondes. C'est diffusé sur Arte ce soir à 22h15.
Demain, C'est pas du vent recevra Laurence Toubiana, la directrice de l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est également au ministère des Affaires étrangères en charge de la direction des biens publics mondiaux.
Nous irons aussi donc au Chili à la découverte de l'île de Robinson Crusoe. Et à demain, même planète.
Même heure.